Bienvenue sur le ring, l'ODJ TV Radio, Islam Amouni.
Merci Rachid pour ton invitation.
C'est un plaisir de vous recevoir, Islam Amouni, y compris notamment sur un ring aujourd'hui.
Bah, écoute, je suis combative, donc ça ne me change pas beaucoup de d'habitude.
Complètement. Islam Amouni, je rappelle que vous êtes avocate.
Oui.
Et que vous êtes présidente fondatrice de l'association Kif Mama, Kif Baba, qui milite essentiellement pour l'approche genre, l'égalité entre les deux sexes. C'est bien ça ?
Absolument, absolument. C'est ça, et l'intérêt supérieur de l'enfant.
Et l'intérêt supérieur de l'enfant, tout ça dans le cadre de l'intérêt public ?
Bien sûr, l'intérêt de notre pays. On est des patriotes et on ne ferait rien qui irait à l'encontre des intérêts de notre pays.
Donc ce ring avec vous, donc c'est une forme de combat d'idées en trois rounds thématiques. Rizlan Mamouni, premier round justement dans le cadre de la révision de la Moudawana. Est-ce que la voix des conservateurs est plus audible que celle des réformateurs ? Point d'interrogation. Vous nous donnerez votre point de vue. Le deuxième round également a pour thématique quel consensus sociétal possible ? Avec un point d'interrogation. Et enfin, troisième round, compte tenu que le livrable, j'ai envie de dire, de l'instance est prévu pour le 26 mars, donc dans à peu près une quinzaine de jours, quelle hirondelle de printemps auront les féministes ? Parce qu'on sera en plein mois de mars et ça sera le printemps. Mais Rizlan Mamouni, sur le premier round, révision de la Moudawana, la voix des conservateurs est-elle plus audible que celle des formateurs ? Quand on entend et qu'on voit et qu'on lit et qu'on écoute un petit peu les dires de... C'est ceux qu'on présente comme l'islam politique, le secrétaire général du PJD, entre autres, qui s'est montré extrêmement virulent ces derniers jours à l'encontre de celles et ceux qui s'amuseraient à toucher au référentiel religieux.
Ben vous savez, quand on a une clientèle électorale à ménager, on utilise tous les moyens et l'islam politique en est un. C'est un outil qui est très prisé par le PJD de manière générale et son secrétaire général dernièrement. On n'utilise pas les mêmes moyens, nous les défenseurs des droits humains des femmes et de la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. Donc forcément, on n'utilise pas la peur, on n'utilise pas la manipulation, ce qui rend peut-être nos voix moins audibles. Et c'est vrai que depuis l'avènement des réseaux sociaux et même avant l'avènement de l'Internet, les conservateurs l'ont beaucoup occupé comme terrain, là où les militants des droits humains ont peut-être moins investi les réseaux sociaux et l'Internet. C'est en train de changer, les choses sont en train de basculer.
Est-ce que ça veut dire, Islam Amouni, que vous dites effectivement aujourd'hui que la voix des conservateurs, en tout cas incarnée tout récemment par le secrétaire général du PJD, le Parti Justice et Développement, mais je rappelle aussi qu'il y a l'association Justice et Bienfaisance, l'ULSN aussi, qui s'est exprimée là-dessus, qui a fait part, d'ailleurs une espèce d'alliance idéologique d'ailleurs, où se sont retrouvés après des divergences politiques, le PJD, le bras armé idéologique d'ailleurs du parti, en l'occurrence le MUR, le mouvement Unicité et également l'association Justice et Bienfaisance, est-ce qu'ils sont beaucoup plus audibles aujourd'hui que l'écosystème global du mouvement féministe ?
Disons qu'ils ont eu une longueur d'avance pendant un certain temps, qui sont du coup audibles ou qu'ils suscitent l'intérêt dans leurs actions, mais aussi leur péripétie. On se rappelle tous de l'incident de la plage, du mur. C'est peut-être pour ça qu'il est resté longtemps silencieux, mais on les revoit revenir un petit peu sur le devant de la scène. Encore une fois, on n'utilise pas les mêmes moyens, nous, forcément, mais plus de temps à réussir à mobiliser. Il y a aussi un autre phénomène qui est celui des femmes marocaines qui subissent au quotidien toutes ces violences juridiques qui sont dans nos textes et ces violences économiques, les violences sociales, sans compter les violences physiques qui existent au quotidien. Mais j'ai l'impression qu'elles ont développé aussi une espèce de puissance qui leur permet de supporter ces injustices-là et qu'elles ne sont pas habituées parce que baignant dans des écosystèmes très très patriarcaux à lever leur voix, à s'exprimer sur ces violences-là. Ça reste des sujets parfois extrêmement tabous, encore même le divorce est très tabou dans certaines zones du Maroc et certains quartiers, même dans les villes, ce qui fait que les femmes en parlent moins. Ça ne veut pas dire que leur cause est moins juste ou moins importante. Au contraire, et c'est pour ça que les associations féministes et les militantes de la société civile prennent le relais et essayent de porter cette voix qui n'est pas très audible, la voix vraiment des sans-voix, de ces femmes, de ces enfants qui souffrent de ces injustices et de ces violences juridiques.
Vous avez vu comment c'est le secrétaire général du PJD, je crois que c'était le 2 mars dernier, c'était parallèlement d'ailleurs au lancement de votre campagne de communication autour du Moudawana.
Ouais.
A fait cette déclaration en disant s'il faut mobiliser et descendre dans la rue 1 million de personnes, il a certainement fait référence aussi quand on revient un peu dans l'histoire, au 11 mars 2000, où il y a plus d'un million de personnes qui descendent de la rue, pro-conservateurs. Est-ce que vous l'avez entendu comme moi, ça?
Oui, absolument.
Est-ce que ça vous fait peur, ça, Rizal Mamouni? Cette épreuve de force qui pourrait y avoir éventuellement, ce rapport de force dans la rue à quelques jours ou quelques semaines de la nouvelle feuille de route Moudawana?
Ça fait longtemps que M. Bnkeran ne fait plus peur à personne. Il s'agite et fait des effets de manche. Il n'y a aucun argument constructif dans tout ce qu'il dit, rien de nouveau sous les cocotiers. Il ressasse un petit peu sa vieille rengaine. On est habitué maintenant et ça ne nous fait absolument pas peur. La justice ne va se frayer de toute façon un chemin, même si il réussit à mobiliser à travers la manipulation, à travers l'utilisation de l'islam politique et donc la manipulation des masses par la peur. Il pourra arriver.
Par la peur ou par la conviction? Parce que selon lui, en fait, c'est aussi arriver à mobiliser des femmes et des hommes sur la base d'une conviction pour défendre et faire front commun contre tout cas d'éventuel à l'égard du référentiel religieux concernant, et ça touche effectivement l'égalité homme-femme en matière d'héritage que vous souhaitez, ça touche l'interdiction du mariage des mineurs que le PJD et que toutes ces forces conservatrices ne veulent pas et se refusent à entendre.
Non, quand une idéologie ou une conviction est basée sur des arguments, et là je n'en vois pas, même quand M. Bnkeran fait ou renvoie au référentiel religieux, ce n'est pas un argument, on ne rejette pas de bloc ce référentiel religieux. Au contraire, ça fait des siècles qu'il s'imbrique judicieusement dans notre système juridique. Depuis la colonisation, le protectorat, on a un peu plus de mal parce qu'il y a une exacerbation de l'utilisation de l'islam à des fins politiques. Maintenant, les arguments sont là, on ne veut pas une rupture, on n'est pas en train d'inciter à une révolution au Maroc. Ce qu'on demande, c'est la justice. C'est juste une justice, et c'est de faire cesser des souffrances. Et même dans le référentiel religieux qui est invoqué par Sibn Kiren, il ne le fait pas de manière complète, puisque vous avez cité l'héritage. Rappelons que dans l'islam, la condition de l'héritage, c'est la qiwama. Et c'est aussi l'application d'un testament envers les proches et les parents. C'est comme ça que c'est cité dans le Coran. Or, notre droit civil aujourd'hui ne reconnaît pas le testament en faveur de personnes qui sont susceptibles d'hériter. On dit « la wasiyat al-warith ». C'est une invention jurisprudentielle qui date de bien après le Coran, donc qui est susceptible d'évoluer, d'être remise en cause pour se rapprocher au contraire de la lettre du Coran. Et la deuxième condition de l'héritage, c'est la qiwama, c'est-à-dire que la personne qui hérite le double de la femme, donc le frère qui hérite le double de sa sœur, est censée subvenir à tous les besoins de sa sœur. Mm-hmm. Or, dans notre loi, il n'y a rien, il n'y a aucune règle dans la Moudouana, dans le code civil ou dans tout notre système juridique qui me permet d'aller chercher cette qiwama et donc de poursuivre mon frère, mon oncle, etc., pour qu'il subvienne à mes besoins. Donc la règle qui est issue du référentiel religieux n'est transposé qu'à moitié aujourd'hui. Ce qui me fait dire que nos revendications, même si ce n'est pas l'objectif, se rapprochent plus de la charia, du référentiel religieux de M. Bnkeren que ses propres
propos. Donc clairement, Rizal Mamouni nous dit, moi, de toute façon, quelles que soient les déclarations de Abdia Bnkeren ou quel que soit le conservateur ou l'ultra-conservateur qui s'exprime, je n'ai pas peur.
Non,
y compris
pas
la
peur.
Menace de faire descendre des gens dans la rue et de manifester. Par contre, lorsque vous avez vu ces vidéos, ces récentes vidéos, Rizal Mamouni, quand on voit, j'allais dire, les commentaires assez massifs.
Ouais.
D'ailleurs, des vidéos assez relativement virales. Est-ce que ça ne vous interpelle pas? Voire est-ce que ça, par contre, ça ne vous effraie pas?
Non, ça rejoint ce que je disais tout à l'heure, qui est que les conservateurs ont plus investi que nous, les humanistes, les outils qu'offre Internet. Il y a une leçon à en tirer, c'est sûr qu'il faut investir
plus. Vous avez un retour de terrain aussi, des gens qui disent effectivement, Bnkeran, il a raison.
Non, mais ce n'est pas parce qu'on crie plus fort qu'on a raison.
Tous les commentaires qui peuvent être adossés à ces vidéos.
C'est des commentaires de groupes généralement qui sont très organisés, qui sont financés par M. Bnkeran ou ses acolytes, donc ils sont forcément plus forts. Mais on connaît leurs moyens et ça m'aurait fait peur s'il avait un argument vraiment constructif et qui coupe court à tout débat, qui montre absolument…
On touche
absolument
pas au référentiel religieux, c'est pas un argument, en tout cas s'il avance.
Ouais.
On ne touche pas, d'ailleurs il s'en est pris au CNDH, au Conseil national des droits de l'homme, au PPS et à l'USFP, qui vont un peu dans le sens de l'égalité en matière d'héritage ou l'interdiction, voire la criminalisation du mariage des mineurs. Mm-hmm. Est-ce que du coup, lui, il les taxe, en tout cas les qualifie d'être l'ennemi, en tout cas la religion, Et au référentiel religieux,
mais
donc.
Oui, mais il parle comme s'il a le monopole de l'interprétation de la religion, ce qui est faux. J'ai autant le droit que M. Bukeren de m'exprimer sur ma religion aussi, sur la base de ce qu'on m'a appris, de ce que des valeurs qui m'ont été transmises par ma grand-mère, etc. Donc il n'a pas le monopole. Il n'a pas le monopole. Il y a un texte qui est sacré dans tout ça, c'est le Coran. C'est la parole divine. À part ça, tout a été fait par des êtres humains au fur et à mesure des siècles qui ont suivi la révélation du Coran. Et tout ça, les femmes n'ont jamais participé pendant tous ces siècles. Il est temps que ça s'arrête. Et surtout, c'est humain. Et donc, on a le droit de critiquer, d'en discuter, de faire évoluer les choses. Il ne faut pas... une société n'a pas besoin, selon moi, d'attendre que le plus ignorant, le plus obscurantiste de ses citoyens accède à la lumière pour opérer un changement. Quand il s'agit de changements qui sont nécessaires parce qu'ils sont justes et qui sont pour le bien du pays, il faut les opérer sans attendre, et tout de suite, et surtout pas écoutant des manipulateurs.
Quels que soient les frondeurs. Bien
sûr, quels que soient les frondeurs.
Les obstacles sur le terrain.
Ben oui, on l'a vu à l'époque de l'indépendance des États-Unis, de la déclaration d'indépendance, et quand il était question de remettre en cause l'esclavagisme. La population américaine à l'époque était majoritairement en faveur de l'esclavagisme. Du maintien de l'esclavagisme. On a quand même changé. À l'époque où Robert Badinter, on l'évoquait tout à l'heure, est décédé récemment, c'est le père de l'abolition de la peine de mort en France. Quand il a opéré ce changement-là, la majorité de la population française était hostile à l'abrogation de la peine de mort. Il l'a quand même fait. Tous les Français sont contents aujourd'hui. Donc avançons. Du moment qu'on est convaincu que c'est juste, qu'on ne remet pas en cause les fondamentaux de la nation, qui ne sont pas limités à la religion islamique, elle fait partie parmi quatre éléments de ces fondamentaux de la nation, et c'est l'islam modéré, l'islam juste qui fait partie de ces fondamentaux-là, mais il y a aussi dedans la démocratie, le choix démocratique du pays, l'orientation vers les droits humains universels, c'est inscrit dans notre constitution. Et je rappelle que la constitution de 2011, on était 99% de Marocains à y être favorables. Il était où, M. Bukeren, à ce moment-là? Je pense qu'il a voté aussi pour la protection de la vie privée qui est inscrite dans la constitution, pour l'égalité homme-femme qui est inscrite dans la constitution.
Mais tout ça qui n'a pas donné lieu à des lois. Hein. Il y a un cadre juridique.
On
est en attente de ça.
Ouais.
On passe au deuxième round.
Allez.
Quel consensus sociétal possible quand on voit aujourd'hui la conjoncture dans laquelle on est, extrêmement tendue, qui me fait penser d'ailleurs, il y a un certain nombre de ressemblances avec celle de 2001, 2002, 2003 et les années qui avaient précédé la réforme de la Moudawana de 2004, où il y avait des tensions entre les ultra-conservateurs et peut-être les ultra-réformateurs en tout cas, où à cette époque-là, le sujet de l'équité en matière d'héritage, avait été mis de côté. Mmh. Donc ça avait fait l'objet d'un consensus social et sociétal. Cette fois-ci, est-ce qu'il peut y avoir un consensus ou est-ce qu'on va aller jusqu'au bras de fer, en fait, jusqu'à fin mars, au bras de fer entre entre conservateurs et réformateurs?
Il y a des terrains vraiment de consensus. Encore une fois, je ne pense pas que les féministes aujourd'hui ou les défenseurs de l'intérêt supérieur de l'enfant cherchent un conflit ou une révolution. On s'inscrit vraiment dans la continuité. Et les éléments qui peuvent arriver à aboutir à un consensus, c'est justement l'intérêt supérieur de l'enfant. Je pense qu'il n'y a pas un musulman ou un citoyen marocain qui dise « Non, moi je suis contre l'intérêt supérieur de l'enfant, je veux que l'enfant aille mal, je veux qu'on ne respecte pas son intérêt ». Or, toutes les dispositions problématiques de la Moudouana peuvent trouver une solution à travers ce prisme-là, qui est l'intérêt supérieur de l'enfant. Comme je dis souvent, il n'y a pas de droit des mères versus des droits des pères. Les seuls à avoir des droits, ce sont les enfants, et les deux ont des responsabilités vis-à-vis de l'enfant. Donc, que ce soit en matière de mariage de mineurs, de garde et de tutelle, de filiation légitime, illégitime, mais aussi d'héritage, tout ça peut se solutionner à travers l'intérêt supérieur de l'enfant. En matière d'héritage, par exemple, je le disais tout à l'heure, une des conditions de l'héritage, de l'inégalité en héritage qui est citée dans le Coran, c'est le testament. Le testament qui est cité 9 fois dans le Coran. Mmh. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, on a des règles civiles qui limitent le recours au testament
C'est une pratique qui est en croissance aussi.
Mais le fait
organiser son testament de son vivant, c'est des choses qui se font aujourd'hui.
Mais la loi limite en fait le testament à 30% du patrimoine du défunt, et l'autre limite c'est qu'on ne peut pas faire de testament au profit de ses enfants par exemple, ni de ses parents, alors que le Coran dit donc on arrive à des règles dans la Moudouana qui sont contraires à ce droit islamique dont se revendique M. Bukeren. J'aimerais bien qu'il nous éclaire sur ces contradictions là, mais il se limite à des propos populistes et très généraux.
En même temps, vous êtes Alors, je ne sais pas quel est votre point de vue là-dessus. Si vous avez une position arrêtée, il faudrait bien qu'on trouve un consensus. On ne peut pas arriver avec des positions, j'allais dire, un peu radicales, voire irréconciliables. À l'approche de la nouvelle mouture de la moderne. Ouais.
Ben, le fait d'ouvrir, par exemple, la possibilité d'enlever ces freins au testament pourrait être un outil pour ceux qui veulent de rétablir l'égalité entre leurs enfants. Parce qu'on a aussi, il faut déconstruire aussi les idées reçues. C'est pas vrai que, souvent, et vraiment même chez des gens très très éduqués, tous niveaux sociaux confondus, on nous dit, non, l'héritage c'est sacré, on n'y touche pas. Je dis, mais creusez un petit peu. Même dans le sacré, que dit vraiment la règle sacrée pour le coup? Elle dit, oui, le frère prend le double de la part de sa sœur, après paiement des dettes du défunt et après application du testament.
Donc après apuration.
Voilà, et bien le testament pourrait être un outil pour des parents, et il faut savoir que c'est une possibilité ouverte par le Coran lui-même, de rétablir l'égalité entre ses enfants.
Il peut y avoir aussi une forme d'inégalité qui se révèle, c'est-à-dire qu'il y aurait éventuellement que celles et ceux qui auraient peut-être les moyens immatériels, intellectuels, moral, culturels et matériels pour pouvoir aussi...
Voilà. Vous avez tout à fait raison. C'est pour ça que nous, dans nos revendications, on va plus loin et on demande d'instaurer comme principe l'égalité. Et pour ceux qui veulent faire une profession de foi et aller vers cette règle coranique, qu'ils la fassent à travers le testament. Moi, d'ailleurs, à travers le testament, n'importe qui aurait même deux garçons, supposons, et dont l'un, je ne sais pas, est peut-être atteint d'un handicap, de difficultés de santé, etc., pendant que l'autre a réussi très, très bien dans sa vie professionnelle. En tant que parent, on peut décider de laisser 80% à l'un et 20% à l'autre. C'est pas un souci. Ben, le testament doit nous permettre de le faire. Et ceux qui veulent laisser deux tiers à leur fils et un tiers à leur fille, dommage. Mais
ce que j'allais vous dire, Rizal Mamouni, c'est qu'au vu des propos et de la position, en tout cas, des ultra-conservateurs, a priori, eux, ils sont sur une position non négociable.
C'est ça, mais nous...
Pas d'avancer sur l'égalité en matière d'héritage homme-femme. Donc, je suis en train de me dire, et sur le mariage des mineurs aussi, donc, ce que je suis en train de me dire, c'est qu'en fait, est-ce qu'on ne va pas se retrouver, ou est-ce qu'il n'y a pas le risque de se retrouver avec une nouvelle Moudawana révisée, mais avec une société encore plus fracturée?
Non, il faut, enfin, je pense vraiment, je le pense pas. On nous sort souvent l'argument du taux de divorce qui grimpe, etc. Enfin, c'est encore faire peser sur les femmes d'autres responsabilités qui ne sont pas les leurs et d'autres soucis qui ne sont pas les leurs. On n'est pas garant du nombre de mariages. Il y a, c'est vrai, peut-être une crise du mariage comme dans d'autres pays, mais je ne pense pas qu'elle induise une crise de la famille au Maroc. La famille marocaine est très forte, le rôle des mères est très fort, et au contraire, ce qu'on veut, c'est des droits qui reconnaissent cette place dans la société. L'autre point que je voulais dire, c'est que M. Benkeren et le PJD ont été battus et ont été même écrasés aux dernières législatives. Aujourd'hui, on a quand même une belle majorité qui se dit progressiste, qui est au pouvoir, un gouvernement aussi progressiste qui est au pouvoir, et bien qu'ils fassent leur travail. Ça veut dire que la société aussi a changé. Pourquoi s'en tenir
faire
à
faire travail, ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire j'attends que la loi soit votée au Parlement
Ça fait partie de leur travail de voter des lois qui rétablissent la justice. Moi, franchement, il y a un truc qui me révolte quand même, c'est quand je vois l'image qu'a notre pays qui est vraiment très belle, celle d'un pays très en avance, où il fait bon vivre, très chaleureux, etc., qu'on a à l'international. On organise bientôt la Coupe du Monde, la Coupe d'Afrique, on préside le Conseil des droits de l'homme des Nations Unies. Enfin, tout ça, c'est exceptionnel. Moi, ça me fait mal au cœur de voir un pays comme ça, qu'en interne, on a encore des inégalités qui sont inscrites dans notre droit. C'est plus possible. Parce que même quand on arrivera à cette égalité, et j'espère qu'on y arrivera en 2024 en ce qui concerne le Code de la famille, eh bien, même quand on y arrivera, le combat sera loin d'être fini. Il va falloir lutter pour l'application de ces lois contre les résidences sociales. Enfin, il y aura encore énormément de résistance dans la société, même dans des pays occidentaux qui sont arrivés à cette égalité parfaite en droit. Il y a encore le problème d'inégalité des salaires, des violences conjugales, de l'hébergement des femmes violentées, des enfants, etc. Donc ce ne sera pas fini. Mais c'est important que ce ne soit pas inscrit noir sur blanc dans notre droit, qu'on ait un droit à la hauteur du rôle des femmes dans la société marocaine.
Donc même s'il n'y a pas de consensus, en tout cas sociétal au mois de mars-avril, peu importe, vous souhaitez que la loi la Moudawana soit revisitée, aille dans le sens de rééquilibrer, de réajuster les droits entre les hommes et les femmes.
Absolument, je ne pense pas que ce soit en opposition.
Même si un certain nombre de Marocains sont à la marge et sont complètement
Ben, il y
opposés
aura
à
toujours
ce
des
qui...
Marocains à la marge, il y aura toujours des gens qui sont obscurantistes, qui n'ont pas compris, qui sont dans l'erreur par rapport à ce que dit leur propre religion, qui ont des convictions qui sont erronées. On ne va pas les attendre, non. On ne va pas les attendre. Et puis, moi, il faut le mesurer, ce consensus. Moi aussi, le Maroc que je vois est plutôt progressiste. Les femmes que je vois, elles travaillent toutes, elles sont toutes très ambitieuses, surtout cette jeunesse qui me donne beaucoup d'espoir chaque jour. Je n'ai pas l'impression d'être en conflit frontal.
Vous avez déjà rencontré une femme qui vous a dit, eh bien, moi je suis contre l'égalité en matière de droit,
Alors,
en matière d'héritage. Est-ce que vous avez déjà rencontré? Voilà.
oui, en
Ouais.
matière d'héritage, oui, j'en rencontre.
Et qu'est-ce que vous avez répondu?
Ben, quand je leur explique vraiment que la lettre, et je m'y suis mise vraiment avec beaucoup de plaisir, mais j'étais assez éloignée dans mon domaine d'expertise de ces champs-là. Mais quand je leur dis que voilà, la règle, ce qui est coranique, on ne le remet pas en cause, elle a deux conditions qui sont le testament et la qiwama, et qu'aucune des deux n'est bien transposée dans notre droit. On a transposé qu'une partie de la règle, et comme par hasard, ben, c'est celle qui concerne les femmes, les enfants, bref, les plus faibles de la société, pour construire cette règle-là. Eh bien, vraiment, il y a un sursaut, et il y a toujours, en tout cas avec celle avec qui je prends le temps d'échanger, que ce soit sur les réseaux ou face à face, il y a toujours un changement qui s'opère, et à systématiquement me dire, Rizlan, s'il te plaît, parle-en.
Un changement
Dis.
durable ou un changement ponctuel de
Non, un changement
position?
durable dans la position, bah parce qu'elles sont convaincues, je leur parle, preuve à l'appui.
Troisième round, Rizlan Mamouni, quelle hirondelle, parce que c'est bientôt le printemps et c'est bientôt le mois de mars. En tout cas, fin mars, est le livrable des recommandations et des propositions de l'instance qui a été créée à cet effet à la plus haute autorité de l'État. Quelle hirondelle de printemps pour les féministes? Alors on s'est dit, effectivement, il y a un certain nombre de revendications, d'attentes. Je crois savoir, Rizlan Mamouni, vous avez fait plein de déclarations chez plein de confrères et consoeurs, que pour vous, il n'y a pas de concession possible, que l'égalité en matière d'héritage homme-femme, vous y tenez, l'interdiction du mariage des mineurs, vous y tenez. Concernant la tutelle parentale, le rééquilibrage d'injustices profondes, vous y tenez aussi beaucoup. Ça veut dire pas de concession, pas de compromission possible.
En fait, c'est un peu agressif la manière dont je l'entends. Bon, je ne fais que défendre en fait des droits fondamentaux et des libertés pour la génération future de nos enfants, en fait. C'est pas qu'il n'y a pas de. Enfin, et aussi, je vous donne peut-être cette impression qu'il n'y a pas de compromis possible parce que je suis profondément féministe. Et si nous, les féministes, on ne demande pas 100% d'égalité, on ne demande pas à avoir une société parfaitement égalitaire, qui va le faire? On va effacer la parole de ces femmes qui souffrent. Si on commence à négocier avec nous-mêmes, à avoir peur d'un Ben Kiren dans nos propres têtes qui va venir hanter nos pensées, et qu'on commence à dire, ben non, ça ne va pas par Ben Kiren, on va l'édulcorer comme ci ou comme ça. Moi, autant démissionner, en fait, de Kiwama
Donc
et de me dire,
vous c'est 100%.
à nous, c'est 100% et on est
C'est-à-dire
dans
que
notre
c'est
rôle.
tout ou rien.
C'est pas tout ou rien. Comment dire, on sera content d'avoir des avancées, mais on ne manquera pas de critiquer tout ce qui manque, toujours. Et c'est notre rôle. Après, les politiques nous enlèveront 30%, les juges nous enlèveront encore 30%, mais si nous, on négocie avec nous-mêmes, je pense qu'on n'est plus vraiment dans notre rôle. Et la parole des femmes va s'effacer.
Si on prend 2003-2004, en tout cas la dernière version de la Moudawana, il y a des
Ouais.
concessions qui ont été faites. On le voit par l'instance qui avait été créée à l'époque aussi, qui était très consensuelle, par la présence des profits, des sociaux-profits d'ailleurs de cette commission. On voit là, c'est les représentants de grandes institutions qui sont le Conseil supérieur des oulémas, le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, donc sont fortement représentés. Il y a le CNDH aussi, et bien entendu, qui est représenté d'ailleurs, qui a fait l'objet d'attaques assez violentes d'ailleurs de la part du secrétaire général du PJD. Mais on voit bien que c'était consensuel et consensus. 2003-2004, 2023-2024, a priori aussi, on aurait pensé que ça allait prendre ce chemin-là. C'est un chemin qui n'est pas pris. Donc on peut imaginer aussi que de part et d'autre, c'est-à-dire les conservateurs et les réformateurs, il faudra faire des concessions de part et d'autre. Est-ce que vous êtes prête, vous, en tant que militante et militante féministe, à essayer de trouver un new deal, si je puis dire, aussi pour arriver en fait à faire avancer les causes, mais pas toutes les causes?
Enfin, les règles du jeu ont un peu changé. C'est vrai qu'il y avait des règles du jeu à la commission, à l'instance qui était là en 2003-2004 Et je salue Nsack Sosse qui a écrit un merveilleux livre
Oui.
où elle documente ça, Une femme au pays des Fokara, et où elle dit à quel point sa voix a été écrasée, alors qu'on l'a amenée à faire un consensus. Elle a, quand même, je tiens à le dire, refusé de le faire, même si elle a signé le document, parce qu'il fallait un document unique, et à la fin, elle a réussi
Donc, elle a
à.
fait,
Non, non,
nous
mais
avait
elle
tous
a.
avait fait une avait consenti
Non, mais attends, il y a
une
une
concession.
grosse réserve, c'est
Oui.
elle a obtenu que son nom soit inscrit. Et pour dire qu'elle était en désaccord avec ceci ou cela, avec les règles avec lesquelles elle était en désaccord. Je pense que on arriverait, si j'avais été là, à quelque chose de similaire, parce que je ne veux pas que la parole de ces femmes s'efface. Si moi qui me dis vouloir porter la voix de celles qui n'en ont pas, je commence à effacer une partie de leur parole, je ne mérite plus de me revendiquer féministe ou de revendiquer que je porte leur voix. Donc, non, tant que je me dirais que je porterai leur voix, je la porterai à 100% et très fort et avec des mégaphones s'il le faut. Et c'est mon rôle. Et après, encore une fois, les juges enlèvent. C'est intéressant d'ailleurs la composition de l'instance aujourd'hui où le judiciaire est très représenté. On a le ministre de la Justice, on a le parquet général qui est représenté et la Cour de cassation aussi qui est représentée. Et quand on lit la lettre de Sa Majesté, il fait référence à des dysfonctionnements. Et ces dysfonctionnements, ils sont de deux ordres. Il y a des vraies lacunes qui manquaient dans les textes et il y a aussi l'application par la jurisprudence de la Mudawana de 2004. Et pour moi, la jurisprudence a échoué à appliquer les orientations de Sa Majesté en 2004 et les orientations de cette Mudawana qui a quand même un préambule qui est extrêmement fort.
C'est pour ça que certains considèrent que Rizal Mahouni, qu'il y aurait des réajustements, mais pas des rééquilibrages. Des
Écoutez.
réajustements par rapport à le retour d'expérience 2004-2024,
Ouais.
mais pas des rééquilibrages.
Nous, on n'est pas, malheureusement, on ne fait pas partie de l'instance, sinon j'aurais dit, et je n'ai pas connaissance de leur manière de travailler. Mais bah, on verra, en fait, pour l'instant, on sait que le 26 mars, il y aura l'instance va rendre sa copie avec ses conclusions, et ensuite, on verra ce qui sera publié, ce sera un projet de loi. Bah, on sera au rendez-vous au moment du projet de loi, au moment où les résultats de cette instance et le résultat de tout ce travail sera rendu public. On sera là pour saluer les avancées et pour critiquer les manques. Et on sera toujours là pour critiquer ces manques-là, ces
C'est-à-dire,
lacunes.
agenda, donc l'instance qui remet ses propositions, recommandations à la plus haute autorité de
Ouais.
l'État, ce qui pourrait avoir lieu ensuite, de manière effet mécanique et naturelle, c'est d'avoir un débat au sein du Parlement, là-dessus,
Absolument.
avec un vote d'une
Ouais.
loi. Et compte tenu que le PJD est largement minoritaire au Parlement, vous dites en fait, même s'ils font beaucoup de bruit aujourd'hui, est-ce que c'est ça votre déduction?
Mais
Même s'ils font
oui.
beaucoup de bruit aujourd'hui dans les médias, et essentiellement d'ailleurs sur les réseaux sociaux, plus particulièrement, de toute façon, cette loi, une fois qu'elle ira au Parlement, et on aura gain de cause
Bah,
parce
c'est
que
le.
les ultra-conservateurs sont minoritaires. C'est ça
Oui,
votre stratégie, j'ai envie de
c'est
dire,
pas une
Rizal Mamouni?
stratégie, c'est une lecture des textes. Et dans la Mudawana, parmi les constantes de la nation, il y a le choix démocratique. Et le choix démocratique, il nous a amené aujourd'hui à une majorité très confortable qui est progressiste. C'est pour ça que je dis qu'il faut faire leur travail aujourd'hui. On n'a pas de barrière. Vraiment, le bruit, les réseaux sociaux, c'est pas ça la démocratie. Tout le monde s'exprime, parfois à tort et à travers, sur ces plateformes-là. C'est aux institutions de faire leur travail et à ces partis aujourd'hui, aux politiques, d'avoir ce courage politique accompagné par l'initiative très forte de Sa Majesté qui a appelé à une réforme audacieuse, je cite les termes de sa lettre, eh bien j'espère qu'ils seront au rendez-vous.
Vous avez la garantie d'être que les partis politiques et que celles et ceux qui sont en responsabilité aujourd'hui et qui sont majoritaires au Parlement, on sait que les députés USFP et PPS voteront, en tout cas pour une
Oui.
loi, une révision en tout cas de la Mudawana qui répondent à vos attentes. Mais est-ce que vous avez la garantie que les autres formations
Non,
politiques iront dans le même sens?
je pense qu'il y a eu une enquête il y a quelques mois, quelques semaines, où chaque parti politique a émis ses propres
Oui.
propositions et on a quand même un grand silence du PAM, du RNI et de l'Istiqlal de mémoire qui forment cette majorité confortable. Sûrement, peut-être ils se sont sentis en conflit d'intérêts ou ils ne voulaient pas avancer leur pion à ce moment-là parce qu'ils n'étaient pas du tout obligés de le faire. Mais j'espère que là, ils seront au rendez-vous. Le PAM, surtout, à travers son secrétaire général qui a cessé ses fonctions dernièrement, mais en tout cas, c'est
Qui reste
beaucoup,
ministre de la
qui
Justice.
reste ministre de la Justice et membre donc de l'instance, s'est beaucoup exprimé à ce sujet. Si il fait tout ce qu'il a dit, on aura, je pense, une belle Mudawana 2.0.
Donc il faut attendre le mois d'avril, c'est ça?
Ben là, oui.
Session d'avril au printemps.
Enfin, là, pour avoir du nouveau, oui, nous, on ne s'arrête pas de
donc
travailler.
C'est l'hirondelle qu'attendent les féministes, l'ouverture de la session de
ça.
Printemps au Parlement.
C'est la Modouana 2.0 qui instaure une égalité parfaite entre hommes et femmes en droit et qui rend effectif la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant. C'est ça, notre hirondelle. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle viendra. Est-ce que c'est vraiment fin?
Généralement, l'hirondelle vient au printemps.
Enfin, voilà, on espère. Ce sera peut-être une hirondelle d'automne. L'important, c'est que ce soit une belle hirondelle et qu'elle annonce le printemps des femmes et de l'intérêt supérieur de l'enfant.
Merci infiniment à vous, Rizlane Mamouni. On va faire le même
piste
d'égalité en mettant un gant sur un ring avec une femme, c'est jamais facile, mais on le fait, puis avec le sourire en plus.